Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous. L'arrivée du printemps ramène avec lui les inondations. Le Québec a l'habitude de ces débordements, mais ils prennent de l'ampleur avec les changements climatiques. Les crues de 2017-2019 ont été particulièrement catastrophiques pour bien des riverains et des municipalités, telles que la ville de Gatineau, par exemple. Une étude de l'Université Laval montre que les dommages des inondations liées aux embâcles pourraient augmenter en moyenne de 30% en raison des changements climatiques. Nous allons explorer le lien entre climat et inondations aujourd'hui à Je vote pour la science. Et aussi, nous allons nous demander quelles sont les meilleures solutions pour prévenir les dommages sociaux, économiques et environnementaux des inondations. Nous en parlons tout de suite. Restez là. On le sait, on s'y prépare avec le printemps, revient la saison des inondations. Les embâcles hivernaux deviennent de plus en plus fréquents et avec le réchauffement du climat, nous serons appelés à voir de plus en plus d'événements de ce type. Alors comment bien nous y préparer? Nous en parlons avec Philippe Gachon, directeur général du réseau Inondation intersectoriel du Québec et professeur au département de géographie de l'UQAM. Vous êtes aussi directeur du Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale, c'est bien ça? Bonjour.
Bonjour, oui c'est bien ça.
Et nous sommes en compagnie de Johanna Ekem, directrice des programmes d'adaptation au changement climatique, Québec, du Centre INTAC d'adaptation au climat de la Faculté de l'environnement de l'Université de Waterloo. Le Centre INTAC d'adaptation au climat vise à proposer des solutions d'adaptation au changement climatique au gouvernement et plus largement aux Canadiens, si j'ai bien compris ça.
Oui, c'est exactement ça.
Donc bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Donc, les inondations sont récurrentes au Québec, mais avec le retour du printemps, les pluies, les embâcles, les rivières sortent de leur lit. Pourtant, on a l'impression que ce phénomène s'intensifie. Pouvez-vous nous dresser un petit portrait, professeur Gachon, de ce phénomène-là?
Alors, si on regarde à l'échelle globale, d'ailleurs, il y a des rapports récents de l'Organisation météorologique mondiale, encore une fois, qui sonne un peu l'alarme, produit d'ailleurs récemment pour l'état un peu du climat où on en est rendu en termes de réchauffement. Si on regarde par exemple sur l'ensemble du globe, juste les inondations et les tempêtes majeures, donc ça inclut les cyclones tropicaux mais aussi les tempêtes qui nous affectent ici, en particulier au Québec, ces deux phénomènes-là, c'est à peu près 54% de tous les désastres, en fait les phénomènes qui sont à l'origine de désastres naturels à travers le monde. Ok? Ça, si on inclut évidemment les tremblements de terre, les autres phénomènes extrêmes. Bon, donc 54% de tous les phénomènes à l'origine des désastres naturels, c'est les inondations et les tempêtes. Et ils sont responsables de plus de 80% des dommages à travers le monde, en termes de coûts économiques, et la grande majorité en fait des décès. Ce que ça veut dire, c'est que ce sont des phénomènes qui... sont fréquents à travers le monde et sont à l'origine de beaucoup de conséquences à la fois humaines et sur les infrastructures. Alors si on prend l'exemple au Québec, on n'a pas nécessairement une augmentation en termes d'occurrence, par exemple, des phénomènes d'inondation. Par contre, ce qu'on observe, en particulier dans certaines régions, je prends l'exemple de la vallée de l'Outaouais, que je connais bien puisque je travaille, j'ai des étudiantes qui travaillent sur ce bassin-là. Eh bien, on voit en fait que les inondations, notamment de 2017 ou rappelé de 2019, ont battu des records en termes de niveau d'eau et surtout de débit. Et quand on prend en garde toutes les données en fait des séries de débits qu'on a, surtout au barrage de Carillon qui est maintenu par Hydro-Québec depuis 1963, ben on voit effectivement que ces deux inondations-là ont été exceptionnelles. Elles ont battu les records de toutes les inondations qu'on avait observées pour ce secteur-là, évidemment, de la vallée de l'Outaouais, en fait, qui est l'exutoire qui arrive au lac de la Montagne. Donc, et quand on regarde notamment qu'est-ce qui est responsable de ces inondations en termes d'intensité, ben on s'aperçoit en fait que, par exemple, les pluies au mois d'avril, donc les pluies sur neige au moment évidemment de la phase de dégel, ben elles sont en train d'augmenter. Et elles sont en train d'augmenter, surtout, je dirais, dans les dernières décennies, où on voit justement une augmentation de la quantité de précipitations liquides qui tombent sur la neige et donc qui vont favoriser le ruissellement et donc un apport d'eau très important, dans un contexte aussi où, globalement, on se réchauffe. Et on se réchauffe de plus en plus et de plus en plus rapidement. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'Organisation météorologique mondiale, le taux de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle, on est rendu à 1,2 degré plus chaud qu'avant, donc si on prend les relevés depuis 1850, sur l'ensemble du globe. On se rapproche très dangereusement du 1,5 degré. Vous vous rappelez qu'on s'est tous fixés dans les accords de Paris qu'on ne devait pas dépasser parce qu'au-delà de ce seuil de réchauffement, on va avoir des conséquences majeures et les inondations en est un exemple.
Oui, donc l'impression que ce phénomène s'intensifie, c'est une bonne impression. Il s'intensifie vraiment.
Tout à fait. Et il y a plusieurs facteurs qui font évidemment que ça s'intensifie. Les redoux, on l'a vu cet hiver, vous rappelez, au mois de janvier, au mois de même à Noël. On a eu d'ailleurs des inondations autour de Québec le jour de Noël, avec des puits sur neige, des redoux. On a eu aussi ça début décembre en Gaspésie, avec 14 degrés, je pense, à Gaspé. On avait battu un record pour cette période de l'année. La pluie sur neige qui a fait gonfler des rivières très rapidement. Donc, des hivers de plus en plus incertains, ça ne veut pas dire que parce qu'on aura moins de neige, la neige pourra fondre plus tôt, mais si en plus ça se produit, évidemment, cette neige-là fond en même temps qu'on a des précipitations importantes, liquides, qui apportent un volume d'eau encore plus important, ben là, évidemment, ça augmente la probabilité d'avoir des inondations, et plus nécessairement, je dirais, typiquement au mois d'avril-mai, comme on a d'habitude ici au Québec, mais même en plein hiver, comme on l'a vu cette année à Québec.
On va en avoir un peu plus. Madame Ekin, à l'échelle du Canada, quelles sont les villes les plus touchées par ces inondations?
Bien, on peut mentionner les inondations très importantes. Fort McMurray, par exemple, c'est le désastre qui a battu les records au Canada pour les coûts, des coûts assurables. On estime que les coûts non assurables sont comme 3 ou 4 fois les coûts assurables. Puis ces coûts à l'échelle du Canada en 2020, on est rendu à 2,4 billions de dollars des coûts assurables. Alors, c'est pas le plus large. On peut penser aussi aux villes comme la ville de Calgary, par exemple, à Montréal aussi, à Ottawa, Gatineau, Québec aussi, la ville de Québec. Mm-hmm. Presque toutes les grandes villes, en fait, parce qu'on a battu nos villes à côté des rivières, souvent.
Oui.
Mais c'est pas juste, aussi, je voulais apporter le fait que c'est pas juste les inondations liées aux rivières qui augmentent avec les changements climatiques. On attend les pluies intenses plus augmentées dans le futur à cause des changements climatiques. Alors, il y a des inondations qui sont causées par le refoulement des systèmes de drainage urbains. Mmh. Alors, les inondations urbaines causées par les pluies intenses qui ne sont pas reliées aux rivières ils vont augmenter dans le futur aussi. Alors, ce n'est pas juste parce qu'on est loin des rivières qu'on est protégé contre les inondations. Et aussi, le phénomène des inondations côtières aussi, qui va augmenter à l'échelle du Canada. On attend comme ça tous les inondations urbaines et côtières.
Oui, il y a beaucoup de sources finalement. Professeur Gachon, quelles sont les régions et les municipalités québécoises particulièrement touchées par les inondations?
Alors, on estime en moyenne... il y a à peu près 80% des municipalités qui sont directement et indirectement affectées par les inondations. Johanna vient de le mentionner, on s'est construit pour la grande majorité près des rivières, près des lacs. Donc on a beaucoup d'endroits finalement qui sont susceptibles de connaître des inondations. Johanna a tout à fait raison de le mentionner, il y a évidemment le débordement des cours d'eau, qui est évidemment problématique, mais il y a aussi, dans le contexte aussi du réchauffement, une augmentation probable des intensités de précipitations, notamment à des échelles horaires, donc à des très courtes périodes de temps, qui peuvent éventuellement, on l'a vu à Montréal, on l'a vu dans les grandes villes comme Toronto, provoquer des débordements d'égouts, on l'a vu aussi à plusieurs reprises dans le métro de Montréal, ça a été vrai dans le métro de Toronto, à la suite de forts orages d'été. On a vu donc des systèmes d'égouts qui sont plus capables d'en prendre la quantité d'eau. Et donc, à l'UQAM, prendre l'exemple de l'UQAM, on a été à plusieurs reprises, le système électrique a été endommagé suite justement à des infiltrations d'eau à la suite de grosses précipitations. On a eu aussi, vous le rappelez, il y a 2-3 ans, des grosses pluies, une fois qu'on avait eu des gros froids, du phrasile qui s'est formé, et on a eu aussi des débordements d'égouts en plein hiver, pas juste en été. Donc, là, beaucoup de municipalités, on peut penser, Johanna vient de le mentionner, à Gatineau, toute une bonne partie en fait de la vallée de l'Outaouais, Montréal, évidemment, Québec, Hein, toutes les villes aussi, ou un certain nombre de villes qui vivent évidemment au bord du fleuve, au bord aussi des grands cours d'eau. Puis je vais terminer là-dessus pour dire que si on prend l'exemple de l'inondation de 2017-2019, ces deux inondations majeures dont je parlais tout à l'heure,
oui.
On s'est rendu compte qu'en fait, les infrastructures artificiellement, donc construites par l'homme, y a seulement un tiers qui était déjà catégorisé comme étant faisant partie des zones à risque d'inondation. Ce que ça veut dire, c'est que plus des deux tiers n'avaient pas été catégorisés comme des endroits où il y aurait des inondations. Et ça, c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on a construit une bonne partie de nos infrastructures, les deux tiers, dans les endroits où on ne pensait pas avoir d'inondation, ou en tous les cas, on n'avait pas estimé le risque d'inondation suffisamment important pour ne pas évidemment construire dans ces régions-là.
Oui, ça laisse la place à la surprise, à la mauvaise surprise finalement.
Oui.
Comment les changements climatiques jouent-ils concrètement un rôle dans l'intensité et la récurrence des inondations, Madame Ekem?
Mais les changements climatiques, ça affecte la balance entre la neige et la pluie. Alors, sur les rivières, ça dépend la taille de bassin. Alors, il n'y a pas une tendance qu'on peut appliquer à tous les rivières à cause de cette balance-là. Mais ce qu'on attend, c'est vraiment l'intensité des pluies qui augmente dans le futur. Puis, ils ont déjà réussi à documenter une intensité augmentante aux États-Unis. Qui a déjà arrivé. C'est un peu, il n'y a pas une tendance appliquée à tous les rivières, mais on voit l'intensité des orages et des pluies intenses qui va augmenter. Alors, c'est pour ça que les inondations urbaines, c'est surtout le type d'inondation on peut dire qu'ils vont augmenter avec les changements climatiques.
Oui, professeur Gachon, donc ça se passe dans les villes, mais le lien entre les inondations et les changements climatiques suscite encore un débat. Comment l'explique-t-on?
Alors, parce que les inondations, en fait, comme on en parlait un peu tout à l'heure, j'en ai mentionné aussi, d'abord, on ne voit pas une tendance globale partout, ça dépend des bassins versants, mais en fait, les inondations, d'abord, elles sont le résultat de plusieurs facteurs. Okay, ce n'est pas tous ces facteurs-là qui augmentent de la même manière. Mais donc, c'est la combinaison des facteurs qui est importante à considérer. Si on prend l'exemple des inondations printanières, oui, le volume de neige présent au sol au moment, évidemment, de la fonte est important, mais ce n'est pas le seul facteur. Les intensités de précipitation au moment de la phase de dégel, la rapidité avec laquelle se fait le dégel aussi, l'épaisseur ou la quantité aussi, de la profondeur de gel dans le sol aussi, parce qu'évidemment, quand on a un dégel hâtif et que le sol est gelé, l'eau ne s'infiltre pas, tout ruisselle, donc va très rapidement aussi alimenter les rivières. Alors, dans le contexte du changement climatique, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut regarder et leur combinaison, comment tout ça va affecter, par exemple, les inondations printanières. C'est le cas aussi pour les inondations d'été, ce qu'on appelle les flash floods, donc les inondations qui sont le résultat de fortes précipitations suite, par exemple, à des événements orageux. Comme on a vu d'ailleurs l'été dernier, ou dans certains secteurs du Québec, en 2007, il y avait eu le débordement de la rivière Renard en Gaspésie, à la suite d'une importante quantité de précipitations, à la suite d'un système orageux, donc des inondations très rapides, mais uniquement reliées à des quantités très importantes de précipitations. Et donc, pour aussi en fait résumer, le changement climatique va affecter le cycle hydrologique dans toutes ses composantes, surtout dans nos régions. Pourquoi ? Parce que nous sommes affectés, évidemment, au Canada, au Québec, par ce fameux zéro degré qui fait en sorte qu'on a de la pluie ou de la neige, qu'on a du grésil ou on a du verglas. Et donc, tous ces seuils de température, ce seuil de température va être modifié en termes d'occurrence à l'intérieur de l'année, au fur et à mesure que le réchauffement va se produire. Et la rapidité avec laquelle il se produit va aussi accélérer ce qu'on appelle le cycle hydrologique. Plus d'humidité dans l'atmosphère qui peut se transférer dans des intensités de précipitation plus importantes, mais aussi un cycle hydrologique terrestre sur le sol, une fonte plus rapide de neige, une modification du processus de gel dans le sol, des quantités d'eau dans le sol. Dans le nord, on le voit, la fonte du pergélisol, donc cette eau qui est gelée dans le sol, est en train complètement de modifier aussi même la circulation de l'eau, provoquer des affaissements dans le sol. Donc le cycle hydrologique va être particulièrement affecté dans nos régions, par le réchauffement climatique et par le changement climatique de façon globale.
Oui.
On peut peut-être aussi mentionner, je voulais ajouter qu'au Québec, on est très, très affecté par les inondations causées par les embâcles aussi. Alors, les changements climatiques vont affecter le pattern des embâcles et la fréquence des embâcles aussi. Alors, ce n'est pas juste le quantité l'eau, c'est le, comme Philippe a dit, c'est le balance entre est-ce que c'est gelé ou pas gelé. Alors, si, c'est, si ça cause les embâcles de glace, ça peut augmenter la tendance vers les inondations.
Oui, le fameux seuil du zéro, alors. Madame McCain, j'aimerais rester un petit peu avec vous parce que le Centre Intact a publié un rapport en 2019 qui attribuait la note C+ à 16 grandes municipalités canadiennes pour leur préparation à lutter contre les inondations. C'était à peu près la même moyenne qu'en 2015. Cela reste très insuffisant, n'est-ce pas?
Bien, c'est ça. Le rapport, on essaie de souligner le fait qu'on fait du progrès, mais que ce progrès est très est trop lent, en fait. Mm-hmm. Il faut plus d'urgence dans notre action pour adapter au changement climatique et pour préparer aux inondations. Puis, ce qu'on voit à ce moment dans les conversations provinciales et fédérales, c'est que le plus d'attention est mise sur la réduction des gaz à effet de serre, qui est vraiment important. Mais c'est pas un choix entre la réduction des gaz à effet de serre et les carbone neutralité et l'adaptation au changement climatique. On doit faire les deux au même temps parce qu'on a bien passé le point qu'on va éviter les impacts des changements climatiques. Alors, le message qu'on voulait passer avec le rapport, c'est que oui, il y a quelques villes qui sont mieux préparées maintenant qu'avant, mais il faut mettre plus d'emphase et plus d'urgence de se bien préparer aux inondations.
Oui, j'ai vu qu'Ottawa et Toronto ont eu une note B qui font mieux que Montréal et Québec. Comment on l'explique?
Oui, c'est ça. Mais en fait, le rapport, il y a plusieurs facteurs qui étaient... C'était en fait une auto-évaluation des villes. On a fourni des critères, puis les villes, les gens qui travaillent dans les inondations dans les villes ont marqué les notes selon les critères, selon l'échelle. Mais ce qui explique pourquoi Montréal et Québec, ils ont eu les scores plus
notes.
Bas. Mais c'est comme un facteur, je crois qu'il y avait 7 facteurs ou 8, que, alors, on fait bien dans la cartographie, par exemple, à Montréal, ils ont toujours fait les cartes des zones inondables, ça c'est bien, mais on a mis moins d'emphase sur l'effet des inondations sur les infrastructures critiques, par exemple, c'était une faiblesse. Alors, c'est pas comme gagnant de juste être fort dans un facteur, mm-hmm. il faut considérer le tout. Et d'autres villes, ils ont plus en avance. Par exemple, à Edmonton, ils offrent un service de vérification des maisons gratuit pour identifier les risques d'inondation pour les citoyens. Alors, c'est un bon exemple qui peut être pris par les autres villes.
Oui, adopté peut-être par Montréal et Québec et les autres villes québécoises. Quels sont les défis, professeur Gachon, de la préparation aux inondations en contexte de pandémie?
Effectivement, c'est tout un défi. D'ailleurs, on avait fait un atelier l'année dernière, au mois d'avril, justement, pour réfléchir sur ces enjeux-là, s'il devait se produire des inondations dans un contexte de pandémie. Alors, c'est tout un défi. D'abord, d'un point de vue logistique, pour évacuer le monde, même pour protéger des inondations, éventuellement faire venir des bénévoles pour, par exemple, empiler des sacs de sable. C'est tout un enjeu à l'heure actuelle où on ne peut pas, on a besoin évidemment de la distanciation. Organiser par exemple la Croix-Rouge ou les personnes ou les organismes qui s'occupent de l'intervention, l'évacuation, organiser par exemple les secours, sortir les gens et les amener dans les gymnases, ce serait tout un défi à l'heure actuelle dans une période où on doit évidemment respecter non seulement 2 mètres, mais un certain nombre de mesures sanitaires qui sont évidemment obligées à cause de la pandémie. Il y a aussi tout un défi aussi en termes d'intervention auprès des personnes les plus vulnérables. Encore une fois, évidemment, on peut penser aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes aussi d'un point de vue socio-économique vulnérables. Juste pour donner un exemple, certaines personnes ne sont pas encore retournées chez elles à la suite des inondations de 2019. okay, ou même de 2017. Donc ces personnes-là vivent encore dans certains dans des logements temporaires ou n'ont pas complètement reconstruit ou réhabilité leur habitation qui avait été endommagée. Ces personnes-là vivent évidemment dans des conditions souvent, surtout quand ils n'ont pas évidemment des revenus très élevés, dans des conditions aussi qui ne sont pas déjà naturellement favorables dans un contexte de pandémie, mais qui peut engendrer une problématique encore plus aiguë, je dirais particulière, dans un contexte évidemment où il y a une inondation. Rejoindre les gens aussi en ce moment, c'est pas oui, tout le monde est à la maison ou la grande majorité, mais il y a quand même aussi un enjeu relié au déploiement des ressources sur le terrain, des interventions qui seraient tout à fait problématiques. Juste pour terminer aussi, le système de santé, l'intervention, ne serait-ce que psychosociale, pour accompagner les gens, alors que le système de santé est déjà débordé, ça, ce serait tout un défi. Mmh. En ce moment, avec évidemment les systèmes de santé qui est déjà à la limite de ce qu'il est capable de faire dans un contexte de pandémie. Donc, ça pour dire qu'un sinistre comme une inondation qui devait se produire dans un contexte de pandémie, c'est sûr que ça engendrerait des conséquences peut-être plus importantes encore que dans un contexte normal où on n'aurait pas de pandémie.
Oui. Comment s'adapter donc aux inondations à l'échelle d'une région, d'une municipalité, pour un riverain, peut-être Madame Ekin? Comment on s'adapte?
Oui, mais c'est ça. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de produire les lignes directrices pour toute la société. Parce que ce n'est pas juste le rôle du gouvernement, les citoyennes, les entreprises. On a tous un rôle à jouer, en fait. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de produire les guides pour les gens chez eux, mais aussi pour, par exemple, les gens qui gèrent les immeubles commerciaux. Par exemple, les municipalités qui gèrent plus la communauté. Alors, à plusieurs niveaux, il faut faire les interventions jusqu'à le bassin versant ou le salut côtier. Alors, on a tous un rôle à jouer. Ce que les gens peuvent faire à la maison, il y a comme les étapes assez simples qu'on peut juste comprendre comment l'eau est gérée dans la maison si on a une inondation dessus le sol et ce qu'on peut faire pour empêcher l'eau de rentrer. Par exemple, est-ce qu'on a une valve un clapet anti-retour? Est-ce qu'on a une pompe de prise? Est-ce qu'on a comme une batterie un backup qui, si ça lâche pendant une inondation, puis on a de l'eau dans le sous-sol, on a besoin
d'électricité.
Ouais, exact. Alors, il y a juste la première étape que les gens peuvent faire chez eux, c'est de comprendre comment la maison marche et de maintenir les systèmes qu'ils ont déjà. Alors, il y a les actions simples jusqu'à les actions plus compliquées comme les études de vulnérabilité et de gérer les risques à les niveaux communautaires.
Oui, de région et de municipalité. Professeur Gachon, comment une région ou une municipalité s'adapte à cet événement qui va revenir et qui va revenir avec beaucoup plus d'intensité, on l'a entendu.
Alors, pour compléter un peu ce que Jean-La vient de dire, je dirais l'adaptation, faut passer progressivement à ce qu'on appelle, en termes d'adaptation, passer de la gestion de crise, ce qu'on fait, à une gestion de risque. Jusqu'à présent, on est beaucoup en réaction quand on a des événements qui se produisent. On le voit avec la pandémie, ok? On l'avait anticipé chez les spécialistes, chez les scientifiques. Le gouvernement n'était pas prêt, clairement. Ce n'est pas juste au Québec, c'est d'un point de vue, je dirais, international. Donc, on est souvent en réaction au lieu d'être en prévention, en préparation, un peu ce que disait tout à l'heure Joanne. Donc, il faut véritablement, et d'ailleurs l'ONU vient de sortir un beau rapport qui a un peu passé inaperçu l'après-Covid, comment la science peut aider justement à mieux gérer les crises qui vont se produire et qui vont s'accélérer et qui vont s'amplifier dans le futur dans le contexte du réchauffement. Il faut travailler en amont, améliorer notre capacité évidemment d'intervention. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait très bien au Québec, mais il y a peut-être des éléments sur lesquels on devrait s'améliorer. Et après, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut travailler en amont sur la sensibilisation, l'éducation. Beaucoup de gens ne savent même pas, la moitié à peu près, 45% d'ailleurs, un travail aussi du Centre Intact qui a montré qu'au Canada, mais aussi au Québec, 45% des gens ignorent qu'ils vivent dans les zones inondables ou minimisent ce risque dans le futur. Okay? Donc il y a un gros travail de sensibilisation, d'éducation, que c'est vrai au niveau organisationnel, communautaire et individuel. Préparation, prévention. Je vais donner un exemple. On dépense des milliards et des milliards de dollars en intervention. La COVID est un bon exemple. Mm-hmm. Si on dépensait un tout petit peu, jusque quelques pourcents en prévention, on gagnerait énormément, mais surtout on réduirait les conséquences. Okay? Donc prévention. prévention, préparation, intervention. Je pense qu'on a définitivement aussi peut-être certains endroits où on peut améliorer l'intervention, notamment auprès des personnes vulnérables. Okay. Puis l'après, faire et reconstruire mieux, tirer les leçons de ce qui se produit, être capable de non seulement se projeter et puis améliorer notre capacité de prévention, mais aussi anticiper les risques qui vont augmenter. Et ça, vraiment, cette démarche-là, avant, pendant, après, c'est ça qui va nous permettre de réduire les conséquences, de mieux s'adapter, parce que, effectivement, on le sait, les risques, notamment d'inondations et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes, vont augmenter dans le contexte du réchauffement, mais il y a d'autres risques, comme la pandémie, qui vont se rajouter. Ce qu'on dit, en fait, la plupart des scientifiques, d'ailleurs, le disent, on va faire face à des risques systémiques dans le futur. Et pour ça, il faut être passé d'une gestion réactive à une gestion proactive et anticiper ce qui s'en vient pour mieux être capable de faire face.
Oui, tout à fait. Madame McCain, un dernier mot sur la prévention. Est-ce qu'il y a des meilleures solutions pour prévenir justement les dommages, qu'ils soient économiques, environnementaux ou sociaux, des inondations?
On a déjà parlé un peu des actions résidentielles, mais j'aimerais aussi ajouter une mot sur le besoin de travailler avec les processus naturels. Mm-hmm. Parce que les méthodes qu'on a utilisées pour combattre les inondations, ils sont traditionnellement plus comme pour contrôler les processus naturels. Oui. Puis il y a vraiment plus d'opportunités de comprendre ces processus, puis travailler plus à l'échelle de bassin-bassin où c'est possible, d'utiliser les processus naturels pour gérer les inondations. Par exemple, de restaurer des milieux humides ou au moins de protéger ce qu'on a, ce qu'on fait assez bien au Québec. Mm-hmm. Mais les milieux humides, ils gèrent un rôle spécial dans l'atténuation des eaux en amont. Il faut valoriser cette service qu'ils font. Alors, j'aimerais bien voir avec le nouveau plan pour la gestion des plaines inondables, plus de considération au niveau bassin-bassin de comment plusieurs interventions peuvent nous aider dans la gestion des inondations et pas nécessairement juste un focus sur une structure ou un projet comme concret à la fin, une fois que les inondations se produisent, parce qu'on peut vraiment influencer les processus pour réduire le phénomène des inondations dans certains cas.
Oui, et dans ce cas-là, mieux comprendre finalement ce cycle de l'eau, puis des fois peut-être même la laisser passer. Il y a des maisons maintenant qui se construisent sur pilotis justement pour prévenir, justement pour laisser finalement ce phénomène naturel se faire dans ce bassin versant-là.
Exact, puis on peut aussi éviter, comme Philippe a dit, maintenant qu'on a les cartes des zones inondables, qu'on est plus confiant. Mais il faut les planifications fortes pour éviter de mettre des infrastructures à risque.
Oui, les utiliser finalement. Ben, merci beaucoup. Merci, on était en compagnie de Johanna Ekem, la directrice des programmes d'adaptation au changement climatique Québec du Centre Intact d'adaptation au climat de la Faculté d'environnement de l'Université de Waterloo et de Philippe Gachon, directeur général du réseau Inondation intersectorielle du Québec. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions cette semaine et vous pouvez aussi le faire sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la. En attendant, bonne semaine, portez-vous bien.